législation et les pratiques qui maintiennent ou renforcent la stigmatisation et les injustices sociales et sexuelles chez les populations clés.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Rendons-nous maintenant en Guinée où le décès d'un homme atteint de la fièvre de Lassa mobilise les acteurs du secteur de la santé. Que se passe-t-il exactement, Firmin ?
Bouamadou, le virus à l'origine de la fièvre de Lassa a été découvert sur un homme de 35 ans. Il est décédé le 29 janvier à Mamou, dans le centre du pays, selon le directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le docteur Sakoba Keita. Les autorités sanitaires guinéennes ont pris des mesures dès le 1er février en alertant la population, en convoquant une réunion de crise avec des responsables de l'administration territoriale et des départements de l'élevage et de l'environnement. Selon le docteur Keita, quelques 80 personnes sont suivies, mais aucune ne présente de symptômes de la fièvre de Lassa.
Les autorités sanitaires sont d'autant plus inquiètes que c'est à Kissidougou, localité dans laquelle a été dépisté l'homme décédé, qu'est apparue la fièvre Ebola en 2013.
Tout à fait, surtout que la fièvre de Lassa est une infection virale appartenant à la même famille de virus que celui de Marburg et d'Ebola. En outre, au Nigeria voisin, l'épidémie de Lassa fait des victimes depuis plus d'un an. En 2018, la fièvre de Lassa avait fait 171 morts dans 23 États du Nigeria. Une nouvelle flambée a fait au moins 16 morts depuis le début de l'année. Le docteur Sakoba Keita rassure cependant que les équipes déployées avaient déjà les équipements nécessaires pour investiguer et isoler tous les cas. Il assure aussi que les centres de traitement épidémiologique sont en train d'être réactivés. Il ajoute que son agence disposait de médicaments pour faire face à la maladie et des stocks complémentaires avaient été commandés.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comment contracte-t-on le VIH-Sida ? À cette question, la plupart des gens répondent par les rapports sexuels, ce qui est exact. Cependant, il ne s'agit là que l'un des trois modes de transmission du virus du Sida. Les deux autres étant la transmission mère-enfant et la transmission par la voie sanguine. C'est de ce dernier mode de transmission du virus que nous parlons dans cette édition. Pourquoi le sang humain est-il un milieu de prédilection pour le VIH ? Comment se passe la transmission par la voie sanguine ? Comment réduire le risque de ce genre de contamination ? Les réponses à ces questions et à bien d'autres, c'est avec le docteur Arsène Kalenga. Il est médecin à Lubumbashi en RDC. Il est au micro de notre correspondante, Gabrielle Nina.
Pourquoi les sangs interliquides dans lesquels vit le VIH-Sida ?
Le sang contient des cellules type dans lesquelles le virus se multiplie. Ce sont des cellules lymphocytaires qui sont des cellules de l'immunité, qui participent en fait à l'immunité de l'organisme. Et ces cellules expriment des récepteurs CD4 qui permettent au virus de se fixer et d'entrer dans ces cellules-là. Et cela parce que le VIH en lui-même est un intracellulaire obligatoire, donc il ne peut vivre dans le flux sanguin indéfiniment. Il faut absolument qu'il puisse être dans une cellule, et spécifiquement ce type de cellules-là, qui sont en grande quantité au niveau du sang circulant.
Après combien de temps, un sang qui se trouve hors du corps humain ne contient plus le virus, et pourquoi ?
Alors, la vie du virus en donnant le sang qui n'est plus contenu dans le flux sanguin habituel, en fait, la durée peut atteindre 72 heures. Donc 72 heures de temps pendant lequel le virus peut rester actif dans du sang qui est hors de l'organisme. C'est en fait la durée de vie, la moyenne de durée de vie normale d'une cellule lymphocytaire, comme on vous l'a dit, qui sont les cellules préférentielles dans lesquelles vivent le virus.
Les moustiques piquent et transportent généralement du sang. Peuvent-ils transmettre les virus ?
Il faut déjà dès le départ bannir cette idée qui veut que le fait qu'un virus ait piqué quelqu'un et qu'il en pique une autre peut permettre la transmission du VIH à cette autre personne si la personne piquée en premier était infectée. Le moustique en fait ingère le sang de la personne piquée et ce sang passe dans le tractus digestif du moustique. Donc ce sang est digéré. Et quand la personne, enfin ou du moins le moustique, va piquer une autre personne saine, ça n'est pas le sang ingéré qui est retransmis à d'autres personnes, mais plutôt la salive du moustique qui se retrouve ou qui est injectée à la nouvelle personne. Donc il n'y a aucun contact entre le sang ingéré d'une première personne et le sang de la nouvelle personne piquée. Donc le fait que ce sang soit passé dans le tube digestif et ce sang n'est plus réinjecté, si vous permettez, dans le sang de notre personne, fait que le moustique ne peut en aucun cas, n'est-ce pas, transmettre le virus par la piqûre d'un contact contaminé avant de piquer une autre personne qui ne l'est pas.
Le sang de la personne contaminée doit-il être en contact avec le sang de la personne non contaminée pour qu'il y ait transmission du virus? Ou est-ce qu'on peut être contaminé en touchant simplement du sang d'un séropositif?
Pour qu'il y ait en fait contamination, il faudrait qu'il y ait un contact franc entre le sang de la personne infectée ou du sang infecté et du sang sain. Donc le fait de toucher le sang d'une personne contaminée ne vous transmet pas nécessairement directement le VIH. Donc il faudrait que vous aussi vous ayez une effraction au niveau de votre barrière cutanée, qui peut être une plaie, une éraflure, qui permette à ce sang contaminé d'entrer en contact avec votre sang. À ce moment-là, la contamination est possible. Encore une fois, j'insiste, elle n'est pas directe, obligatoire, mais elle est possible à ce moment-là. Dans la seule voie reste le contact direct entre le sang contaminé et le sang de la personne jugée saine.
On dit des certains séropositifs qu'ils ont une charge virale indétectable. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus de virus dans le sang de ces personnes?
Concernant les mesures de suivi, en fait, qui sont généralement utilisées, c'est à ce moment-là qu'on parle de charge virale. Alors, on la juge indétectable lorsque les différents seuils quantifiés au niveau du sang circulant ne sont plus détectables. Ça veut simplement dire que la quantité de virus circulant au niveau du plasma sanguin, c'est-à-dire dans le flux sanguin, le seuil n'est plus détectable au niveau de toute la batterie d'examens qui peuvent être faits. Cela ne dit pas ou n'exclut pas l'infection par la personne. Donc la personne est bel et bien infectée au VIH, mais la quantité de virus circulant dans son plasma est moindre et tellement basse que les méthodes d'examen faits n'arrivent plus à détecter le seuil de contamination. Donc le virus peut se retrouver au niveau des cellules, que ce soit lymphocytaire, au niveau des ganglions, et très peu dans le sang circulant. À ce moment-là, on parle de charge virale indétectable. Et à ce moment-là, c'est une personne qui a moins de chances, n'est-ce pas? Le terme est mal utilisé peut-être, qui a moins de chances de transmettre la maladie à d'autres. Donc c'est une personne qui est moins contaminante qu'une personne qui a une quantité de virus circulant importante au niveau du sang. Donc le risque n'est pas zéro, mais le risque de transmettre la maladie est très diminué au niveau d'une personne qui a une charge virale indétectable.
Quelles mesures pouvez-vous conseiller à nos auditeurs pour réduire les risques de transmission du VIH/SIDA par la voie sanguine?
Alors les mesures générales, c'est la prévention. Je pourrais les classer en deux catégories selon qu'on est en milieu hospitalier ou dans tout autre milieu de soins, n'est-ce pas, où on entre en contact direct avec le sang des patients contaminés, selon en laboratoire ou en hospitalisation, et selon qu'on est dans la communauté. Dans mon milieu purement hospitalier, le port ou l'utilisation obligatoire des gants permet d'arrêter, n'est-ce pas, la chaîne de transmission à ce niveau-là. Donc le port de gants et toute autre batterie de prévention liée au personnel de santé, au personnel affecté, donc les personnes vivant avec des personnes infectées, doivent être mises en œuvre pour éviter la transmission. En général, c'est plus le port des gants qui est le plus indiqué quand on manipule du sang, quand on est en contact avec des patients infectés dans des milieux hospitaliers. Dans la communauté, il faudrait être sûr déjà de ne pas entrer en contact avec du sang de patients, de malades infectés ou de toute autre personne, n'est-ce pas, dont on ne connaît pas le statut sérologique. Cela est valable, que ce soit par rapport à nos sœurs, tout ce qui touche à la pédicure, manicure et certains de nos frères. Cela est valable au niveau de la coiffure, au niveau des salons de coiffure, l'utilisation de matériel individuel est indiqué. On sait que tout le matériel utilisé pour maquillage, traitement, ongles et tout, que ce soit du matériel individuel et non du matériel qui est utilisé par plusieurs personnes. Les salons de coiffure, il est plus recommandé aux personnes d'utiliser leur propre matériel de coiffure ou d'appliquer des mesures de stérilisation bien assez importantes, que ce soit par rapport au liquide désinfectant ou par rapport à d'autres méthodes de rayonnement qui sont utilisées dans certains salons. Donc ce sont autant d'éléments qu'il faudrait mettre en compte, surtout quand on ne connaît pas le statut sérologique des personnes avec lesquelles on entre en contact.
Nous remercions le docteur Arsène Kalenga. Il est médecin généraliste à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
L'un des milieux à risque, ce sont les salons de coiffure. Dans de nombreux salons, les tondeuses, lames de rasoir, ciseaux et autres objets sont utilisés sur plusieurs clients, avec des risques de blessures et donc de transmission du virus. Les coiffeurs en sont-ils conscients? Si oui, quelles dispositions prennent-ils pour réduire les risques? Élément de réponse avec John Matemouli, propriétaire d'un salon de coiffure à Beni en RDC.
John Matemouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Êtes-vous responsable de quel salon?
Je suis responsable des salons Johnny Fiesta, localisé au quartier Mabakanga, en ville de Beni, est de la RDC.
Quels instruments utilisez-vous pour coiffer vos clients de manière générale?
On utilise tous les instruments appropriés aux coiffures de tout genre. On a les tondeuses, les tongs pour la coiffure d'âme, puisque nous faisons la coiffure mixte.
Quelles mesures pensez-vous dans votre salon pour éviter la suie de vos instruments par disson?
On a les boîtes de désinfectants de nos matériels, afin d'épargner nos clients de toute contamination qui peuvent leur survenir pendant l'opération. Quand on a effectué l'opération, on a coiffé par exemple un papa ou on a dressé une maman, à chaque opération, il y a les matériels désinfectants qui sont là disponibles. On essaie de nettoyer sérieusement nos matériels. Et quand on utilise une lame, on l'utilise une seule fois. On ne peut pas utiliser une seule lame pour deux personnes. Il y a les aiguilles, par exemple, pour les mamans. Quand on fait le tressage de plantes pour les mamans, on essaie quand même d'utiliser une seule aiguille pour une seule personne. Après l'opération, et nous, on jette l'aiguille dans les poubelles. Et c'est ce qui nous aide quand même aussi à protéger de manière vraiment efficace nos clients. À cela s'ajoute un lavabo des mains que nous avons mis à la disposition de notre mouvement à la porte pour permettre le lavage des mains à l'entrée comme à la sortie dans notre salon.
Alors, arrive-t-il que vos clients se blessent pendant que vous les coiffez? Et si cela arrive, que faites-vous?
Bon, cela arrive rarement. Nous faisons de tout notre mieux pour nous protéger d'abord, protéger aussi nos clients pour que ensemble nous puissions épargner tel que je l'ai souligné bien avant, mais de manière incidente, cela peut arriver. De toutes les façons, nous sommes déjà en coopération avec certains médecins. À un moment-là, quand on arrive à se blesser, on part automatiquement voir les responsables médicaux pour que nous puissions prendre les soins médicaux et faire les contrôles aussi médicaux.
Avez-vous entendu parler du VIH-SIDA? Que faites-vous pour vous protéger et protéger vos proches contre cette maladie?
Bon, la maladie du VIH-SIDA, elle existe bel et bien, mais nous faisons de tout notre mieux pour éviter d'être contaminé. Moi, étant qui est responsable des salons, je me suis toujours entretenu avec les coiffeurs qui travaillent. Ils doivent déjà prendre toutes les mesures préventives par rapport à cette maladie. Et la seule façon de se protéger contre cette maladie serait de ne pas se blesser lors de l'opération de coiffure. Et aussi, nous faisons en sorte que nos clients aussi soient aussi quand même sensibilisés. Ce n'est pas seulement à ces blessants où on peut avoir cette maladie. Il y a aussi les rapports sexuels qui sont incontrôlés. Il y a plusieurs façons dans lesquelles on peut être contaminé.
C'était John Matemouli, propriétaire d'un salon de coiffure à Beni en RDC. Il nous parlait des précautions prises dans son salon pour réduire les risques de transmission des maladies par la voie sanguine. Et parmi les populations à haut risque de contamination du VIH par la voie sanguine, il y a les usagers de drogues injectables. Ceux-ci se partagent souvent les seringues grâce auxquelles ils s'injectent des drogues. Pour venir en aide à cette catégorie de la population, le programme de lutte contre le sida en RDC, en partenariat avec des ONG, fournit des services de désinfection des seringues et de désintoxication. Écoutez les explications du docteur Bosiki Bernard, il est le secrétaire exécutif de ce programme.
Dans nos différents plans stratégiques, même l'actuel que nous venons d'élaborer, 2018-2021, c'est une population qui retient notre préoccupation et qui constitue aussi un problème pour nous, parce que c'est une population qui alimente l'épidémie. Même si nous ne maîtrisons pas l'ampleur ou disons le nombre de personnes qui utilisent des drogues injectables, nous les recherchons activement pour mener des actions de la riposte au sida.
Est-ce qu'au PNMLS, il existe des programmes qui concernent les usagers de drogue vivant avec le VIH? Et peut-on avoir une idée de ce qui a déjà été fait en rapport avec cette population?
Bien, dans le programme, il y a plusieurs ministères qui ciblent aussi les populations clés, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Et pour les toucher plus particulièrement au niveau communautaire, nous utilisons des ONG, des organisations de la société civile qui travaillent avec nous, qui font partie aussi du PNMLS et qui ont comme cible les populations clés, notamment les utilisateurs de drogues injectables.
Concrètement, si une personne vivant avec le VIH et consomme des drogues a besoin d'aide, où doit-il se rendre? Est-ce qu'il peut aussi attendre de l'aide du gouvernement?
Celui qui consomme des drogues nous intéresse par le fait qu'ils utilisent des seringues et ils se font passer de seringues. Et nous les accompagnons, où le programme fait la promotion d'utilisation des seringues autobloquants. Et les ONG ou les structures qui assurent leur prise en charge, telles que le PSSP, qui est ici à Kinshasa, qui met des activités aussi dans d'autres provinces, ainsi que d'autres ONG, cela fait cette promotion-là de seringues autobloquants, de produits de désinfection, notamment l'alcool, et tout ça, et même organise aussi des séances de désintoxication en proposant des produits en tabis pour arrêter la consommation des drogues. Et il y a aussi des centres conviviaux pour ces gens-là où ils peuvent apprendre comment être consommateur sans présenter des risques de contamination ou de propagation des VIH. À Kinshasa, le centre fonctionne très bien avec l'ONG PSSP. Et donc, ça évolue. Nous avons des services spécialisés pour cela.
Nous remercions le docteur Bosiki Bernard. Il est le secrétaire exécutif du programme de lutte contre le sida en RDC. Il était au micro de notre correspondante, Béro Matanda.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Bonjour docteur, je m'appelle Enoch Yemba Enoch. J'ai 23 ans, j'aimerais juste poser une question par rapport aux bienfaits et aux méfaits de compléments nutritifs.
Les compléments nutritifs ou nutritionnels ne sont pas des médicaments et n'ont de ce fait aucune vertu thérapeutique. Ce sont des sources concentrées de nutriments, des vitamines, des sels minéraux ou d'autres substances qui ont un effet nutritionnel ou physiologiques sur notre organisme. Les compléments nutritionnels associant ainsi des vitamines, des sels minéraux, des plantes, des protéines, des arômes et autres additifs alimentaires sont présentés sous forme de comprimés, de gélules, de sachets et sous forme également de pilules. Ces compléments nutritionnels ont essentiellement pour objectif de compenser une carence nutritionnelle ou un risque de carence chez les personnes susceptibles d'avoir un déficit nutritionnel, comme les personnes âgées ou les personnes exposées à un régime restrictif et déséquilibré. Toutefois, une alimentation variée et équilibrée suffit largement à apporter tous les nutriments nécessaires à notre santé. Il faut dire aussi que la prise de compléments nutritionnels comporte des risques pour la santé, et notamment un risque allergique à l'un de ces constituants, un risque d'effet indésirable, un risque de surdosage, notamment en sel minéral, car comprenant des sels minéraux, il peut avoir un surdosage en sel minéral contenu dans ce compléments nutritionnel-là et déjà présent dans notre alimentation au quotidien. Il y a aussi le risque d'interaction médicamenteuse de ces compléments nutritionnels avec des médicaments que nous prenons déjà. C'est pour cette raison que moi, j'invite vraiment les uns et les autres qui sont amenés à prendre ces compléments nutritionnels de ne pas le faire de façon prolongée ou de façon répétée, et surtout de s'entourer d'un conseil médical avant de les consommer. Voilà la réponse que je peux apporter à cette question sur les compléments nutritionnels.
Bonjour docteur, je suis Ornélie Moulamba de Beni, en République démocratique du Congo. Dans nombreuses familles, souvent en Afrique, l'on observe une différence dans la ressemblance des enfants sur le plan physionomique. Tantôt l'enfant ressemble à la maman, tantôt au papa. Qu'est-ce qui est souvent à la base de cette différence ?
Ce que je peux répondre est que la différence physionomique que l'on observe chez les enfants d'une même famille, d'un même couple, est essentiellement liée au fait que, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, les enfants, bien qu'étant issus d'une même famille, d'un même père ou d'une même mère, ne reçoivent pas forcément le même patrimoine génétique de leurs parents. Ils auront, de ce fait, du moins ces enfants, auront une physionomie très souvent différente, à savoir une différence dans la couleur des yeux, une différence dans la forme du nez, dans la forme de la bouche, dans la texture des cheveux, bref, une différence dans la constitution de leur visage. Avec toutefois la persistance d'un trait familial que l'on peut bien observer. La transmission du patrimoine génétique à chaque enfant est un fait du hasard et s'inscrit dans une espèce de loterie familiale, une espèce de tirage au sort au sein de la famille. Ce n'est ni le fait du père, ce n'est ni le fait de la mère, ça repose essentiellement sur un fait de hasard.
Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la transmission du VIH par la voie sanguine, un mode de contamination souvent signalé chez les usagers de drogues injectables et autres personnes qui utilisent en commun les objets tranchants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Arsène Kalenga, médecin généraliste à Lubumbashi en RDC. Il nous a expliqué les précautions à prendre pour réduire les risques de transmission par la voie sanguine. Nous avons écouté le témoignage de John Matemouli, gérant d'un salon de coiffure à Beni en RDC. Il nous a parlé des mesures de prévention appliquées dans son salon. Nous avons aussi écouté le docteur Osiki Bernard, secrétaire exécutif du programme de lutte contre le sida en RDC. Il nous a parlé des initiatives de soutien aux usagers de drogues injectables qui ont tendance à se partager les seringues. Nous le remercions d'avoir participé à cette édition.
Nous remercions également Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béron Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Carl Staline qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mohamedou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.